Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Cécile.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir.
Merci pour la recommandation du documentaire. J'ai bien noté.
Ah oui, vraiment, c'est. Bah, je trouve, comme je disais, c'est vrai qu'on parle et c'est bien qu'on en parle des féminicides et de. Mais les enfants sont souvent les grands oubliés de l'histoire.
Et
ce documentaire est vraiment poignant. Il y a beaucoup de professionnels aussi, psychothérapeutes, ce juge pour enfants qui est formidable. Et puis ces témoignages de rescapés, en fait.
Mmh. D'accord.
Alors vous, Cécile, vous voulez me parler ce soir de votre mère, du rapport très compliqué que vous avez avec elle, je crois.
Oui, et c'est exactement ça. Je me trouve dans une situation assez difficile avec elle là en ce moment, et puis je ne vois pas vraiment. J'ai du mal à avoir une issue à ça.
Oui.
Et pour vous planter le décor, c'est que ma maman a toujours eu des troubles psychiques.
D'accord.
Depuis, je l'ai toujours connue comme ça. C'est-à-dire qu'elle a souffert de troubles alimentaires. Elle souffre toujours de troubles alimentaires, d'ailleurs.
Qui se manifeste anorexie, d'accord.
Anorexie mentale. Alors, la boulimie, elle l'a plus, mais elle a toujours l'anorexie mentale.
Oui.
Moi, je l'ai toujours connue ainsi. Et donc, elle a été, on va dire, défaillante pendant notre enfance. Une sœur plus jeune.
Oui.
Et elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a même fait partie d'une secte à un moment.
Oui.
Et donc, elle a pas vraiment pu s'occuper de nous. Mon père était très, très absent aussi. Et heureusement, on avait une grand-mère quand même qui tenait la route, donc qui nous prenait en charge les mercredis, les week-ends, les vacances, oui. Quand on était malade.
Heureusement, oui. Grand-mère maternelle ou paternelle ?
Paternelle.
D'accord.
Paternelle. Donc, quand j'ai eu 12 ans, ma sœur 10, elle est partie. Après plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, elle est partie vivre dans le sud à 1000 km.
Vous laissant comme ça à votre père ?
À notre père, mais qui était alcoolique, qui était défaillant aussi. Ouais. Donc on était. On avait cette grand-mère, heureusement.
Heureusement, c'est elle qui vous a recueilli et qui s'est occupée de vous ?
Elle était là en arrière-plan, mais on vivait avec mon père.
Ah oui.
Voilà, donc entre 12 et 16 ans. Et puis à 16 ans, mon père est parti aussi. Il est parti rejoindre ma mère, donc. Et on les a pas revus, en fait. Enfin, on les a revus très ponctuellement, quelques fois. Quand nous, on descendait là-bas, mais ils sont jamais revenus. Ni l'un ni l'autre.
Ah oui, c'est vraiment... terrible pour vous, heureusement, qu'il y avait votre grand-mère paternelle. Vous avez pu vous appuyer sur elle et certainement c'est elle qui vous a, qui a pris soin de vous et qui vous a aidé à vous construire.
Oui, exactement. Oui, c'était un repère pour
moi. Ben oui.
Et je suis très reconnaissante. Bon, elle est décédée en 2017 à 104 ans. Elle était là. On l'a eu un bon moment quand même. Donc,
Ah oui, c'est formidable. Oui, elle a.
Ouais.
Comme
ouais.
Si il fallait qu'elle reste là pour vous le plus longtemps possible.
Oui, voilà. Ah, oui. Bon, à la fin, c'est nous qui nous occupions d'elle.
Bah oui, c'est un juste retour des choses. Oui.
Voilà. Et donc, entre l'âge de 12 ans et là, maintenant, j'en ai 43, donc 30 ans se sont écoulés,
oui.
Où ma mère était totalement absente. C'est-à-dire que elle s'est pas occupée de nous pendant l'adolescence. Après, je suis partie à l'étranger. Bon, j'étais livrée à moi-même complètement à 18 ans, même financièrement. J'ai jamais eu, ils m'ont pas aidée. Je me suis débrouillée comme j'ai pu. J'étais dans un pays étranger. Bon, je me suis débrouillée. J'ai eu un enfant à 24 ans. Là, elle s'est manifestée pour me faire avorter. Pour insister parce qu'elle m'a dit tu n'es pas capable d'avoir un enfant alors que bon j'avais quand même un père qui était là, je travaillais, l'enfant était voulu.
Oui.
Bon, mais là elle s'est manifestée pour essayer de voilà.
Mais avec à nouveau des pulsions de mort quoi, enfin qui qu'elle retourne contre elle dans Elle est très autodestructrice, exactement. Votre mère.
Ouais. Vous avez tout compris, elle est dans l'autosabotage. Voilà, après, en 99, elle nous a plus ou moins déshérités. Bon, elle a fait en sorte que, vu que mon père avait 25 ans de plus qu'elle, qu'on ait rien, si vous voulez. Donc, c'est pas grave, on a tout signé, parce que l'argent ne nous intéresse pas, ni l'une ni l'autre. Donc, bon, elle nous a quand même fait ça. Elle n'a jamais manifesté d'intérêt pour son petit-fils. Ni pour l'enfant qu'a eu ma sœur des années après. Voilà. Donc, elle a été absente. Elle a été dans un repli sur elle-même. Ouais. Et en plus, elle est devenue non-voyante. Dans une espèce de maladie auto-immune. Sûrement due au stress, une maladie rare auto-immune, qui fait qu'elle est on va dire très malvoyante. Elle voit quelques lumières, mais elle ne peut plus voir un visage, elle ne peut plus lire un texte. Elle distingue une vague lumière. Voilà. À la 0,2.
Donc, comment vous le savez, ça? Vous êtes en contact avec elle?
Oui, justement, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que ma sœur a repris contact l'année dernière, oui, en disant, mais on a une mère, vu qu'elle a eu un enfant, elle a eu un enfant récemment, elle a eu besoin de se rapprocher de ma mère. Elle a repris contact.
Oui.
Donc, ma mère est un peu sortie de son repli, mais elle nous appelait une fois par semaine le dimanche. Donc moi j'étais contente, bon, j'avais fait le deuil d'une mère, mais bon, je me suis dit après tout. Voilà, bon. Ah oui, je voulais vous dire, il y a 5 ans, je suis allée la voir là-bas. J'ai pris une location parce qu'elle ne peut pas nous prendre chez elle parce qu'elle a des tocs de propreté. En plus, elle a des tocs, elle fait 5 heures de ménage par jour. En étant non-voyante, donc c'est-à-dire tout est ralenti, vous voyez.
Oui. Elle vit seule.
Oui, elle vit seule. Mon père est décédé.
Mon père est décédé. D'accord.
Voilà. De toute façon, elle vivait seule avant parce qu'ils vivaient séparément. Ils ne pouvaient plus vivre ensemble à cause de ses problèmes. Elle ne pouvait pas prendre un repas avec qui que ce soit. Donc,
c'est terrible. Donc... Hein, vous avez vécu dans un environnement très carencé. Heureusement qu'il y a cette grand-mère a pu vous apporter une sécurité affective, une attention. Ah oui, ouais. Mais entre les problèmes d'alcool de votre père, l'anorexie de votre mère, ses tocs, c'est un vécu très très abandonnique. Hein.
Oui, oui, totalement. J'avais fait le deuil. Bon, je me suis construite sans mère, ma sœur aussi. Bon, comme on a pu, on a élevé.
Mais il y avait cette grand-mère paternelle qui était une figure maternelle, heureusement pour vous.
Oui,
on se construit rarement sur du manque. Hein. Et à vous entendre me parler de votre enfance quand même, comment dire, très abandonnique, avec votre voix très posée. Oui, je me dis qu'il y a eu du travail, mais il y a eu aussi la présence de cette grand-mère qui a permis de vous construire, certainement, quand même,
oui,
malgré le manque.
Ouais. Ouais, elle nous a donné quand même une structure, même
une colonne vertébrale.
Des carences, hein. Oui. Bon, ça n'a pas été facile tous les jours, mais voilà, elle nous a donné la base, je pense.
Oui, oui.
Voilà, donc ma sœur a repris contact avec elle, donc elle a dit, bon d'accord, on s'appelle une fois par semaine le dimanche, elle est un peu sortie de son repli. Il y a eu le confinement qui est arrivé, il faut savoir qu'elle mange une fois par jour et qu'elle doit aller au restaurant parce qu'elle peut rien salir chez elle, donc elle va au restaurant tous les midis et c'est là qu'elle mange. Sauf que le confinement est arrivé, plus de restaurant, eh bien elle a arrêté de manger. Et ça, sans nous le dire. Donc, on continuait de la voir tous les dimanches au téléphone. Elle nous parlait de la pluie, du beau temps. Je lui disais, mais tu manges bien, qu'est-ce que tu manges exactement? Bon, et en fait, elle nous mentait, puisque au mois de février, la voisine du dessus nous a appelé en disant, votre mère est à l'hôpital, elle pèse 32 kilos. Pour 1m65.
Oh là là, oui, grand temps urgent de l'hospitaliser. Oui.
Son processus vital était.
Elle est engagée, ça c'est clair.
Engagée.
Oui.
Donc du coup, l'hôpital n'a pas voulu la garder quand ils ont su qu'elle avait deux filles. Donc on a débarqué là-bas avec ma sœur. On l'a reprise en main. On a pris une location parce qu'on ne peut pas aller chez elle, parce qu'à cause de ses tocs de propreté. Donc on a pris une location. On est resté plusieurs semaines là-bas. On l'a reprise en main. On lui a donné à manger, etc. Je lui ai fait à manger matin, midi, soir.
Ça doit être dur pour vous de vous retrouver là, H24, avec elle.
Très dur, parce que, je ne sais pas comment... Si vous voulez, elle vous prend toute votre énergie.
Mais oui, je
elle
comprends.
Elle est tellement en demande.
Oui, oui. Elle vous dévore, vous.
Complètement. Il m'a fallu plusieurs jours pour me remettre parce que c'est H24. En plus, elle dort pas la nuit, donc elle dort.
Pourquoi elle ne dort pas la nuit? Qu'est-ce qu'elle fait?
Parce qu'elle a toujours été insomniaque. Et que vu qu'elle était je vais pas aller dans les détails trop morbides, mais vu qu'elle était dénutrie, ça causait des douleurs épouvantables. Donc elle pouvait pas rester allongée, elle pouvait pas rester debout, elle pouvait plus rien faire.
Ouais.
Donc c'était du H24, en sachant que depuis tout ce temps-là, elle refuse forme d'aide. C'est-à-dire que les thérapeutes, c'est hors de question.
C'est bien
les
ça,
psychiatres,
le problème. Oui.
Elle en a vu, évidemment, quand plus jeune, quand elle était déjà entre la vie et la mort. Bon, les psychiatres, elle est traumatisée. Elle les voit comme des ennemis. Oui. Ils avaient des méthodes à l'époque pour l'anorexie mentale qui étaient particulières.
Oui, c'est vrai.
Et donc, elle ne veut plus entendre parler de psychiatres. Oui. Les psychologues, c'est pareil, c'est tout dans le même sac. Donc, toute aide thérapeutique
est dans une opposition. D'ailleurs, on a dû, étant donné l'état dans lequel elle se trouvait lorsqu'elle a été hospitalisée, vous me dites que l'hôpital, sachant que, bon, elle avait deux filles, a fait appel à vous, mais parce que ça, elle aurait besoin de soins en psychiatrie, votre mère. Une fois que l'état était stabilisé. Vous l'avez vu, le psychiatre?
Le psychiatre nous a téléphoné, oui. Il nous a dit, c'est une anorexique professionnelle dans le déni. Parce qu'elle n'est pas anorexique.
Et c'est terrible. Et c'est terrible.
Elle dit que c'est parce que les restaurants étaient fermés.
Mais bien sûr que non.
Voilà.
Oui.
Donc, depuis le mois de février, elle a complètement vrillé de l'autre côté, si vous voulez. Elle a décidé de vivre. Mais de vivre, ça veut dire récupérer ses filles. Alors, pas les petits-enfants, par contre. Petits-enfants, ils ne l'intéressent absolument pas. Mon fils ou le fils de ma soeur, un fils de 3 ans. Non, c'est ses filles.
Mais comment récupérer ses filles?
Eh bien, pour qu'on s'occupe d'elles.
Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Oui, c'est-à-dire que c'est à vous, comme vous étiez venu vous occuper d'elles en vous relayant avec votre sœur, elle voudrait que ça continue, en fait, que vous preniez soin d'elle aujourd'hui.
Je pense qu'elle a trouvé ça confortable par rapport à la solitude qu'elle s'était infligée toute seule. Parce qu'elle ne s'est pas fait ça fait 30 ans qu'elle est là-bas. Elle ne s'est pas fait une seule amie.
Mais elle ne peut pas. Elle est tellement dans ses obsessions, dans sa rigidité, dans le contrôle.
Voilà.
Oui, quand vous décrivez que quand même ses tocs l'amènent à faire 5 heures de ménage, qu'elle ne peut pas, manger chez elle, qu'elle doit aller au restaurant, et qu'est-ce qu'elle mange. Enfin, vous voyez, il y a de place pour personne, en fait.
Voilà, c'est ça. Personne ne peut venir chez elle.
Non, elle ne peut pas.
Elle a des horaires, tout est minuté, parce qu'à telle heure, il faut qu'elle rentre, faire tel ménage. Elle a une routine qui la rassure. Et du coup, il n'y a pas de place pour autre chose.
Oui.
Donc, depuis le mois de février, je suis retournée 2 fois là-bas, des séjours à chaque fois de 4-5 jours, qui me prennent toute mon énergie.
Oui, mais je comprends.
Parce qu'il faut que je prenne... Bon, moi, en plus, je suis libérale, je ne suis pas payée pendant ce temps-là. Bon, admettons, je dois payer le voyage,
quand même, ça
paye l'allocation. Sachant qu'il me faut des vacances après ça, parce que...
ressortez exsangue de quelques jours. Oui, je veux bien croire, je veux bien vous croire,
C'est du des sollicitations H24.
Ah oui, c'est... jour et nuit, oui, puisque même la nuit, elle ne dort pas. Oui, c'est pas possible, ça ne peut pas durer comme ça.
Elle dort 1 à 2 heures par nuit. Quand elle dort, des fois, elle ne dort pas du tout.
Elle a quel âge aujourd'hui, votre
65
mère
65 ans.
Oui, mais elle doit faire beaucoup plus âgée.
Oui.
Parce qu'elle est dans un état physique très délabré.
C'est ça. Donc, voilà. Et donc, depuis, ma sœur a craqué.
Oui, je comprends. Votre sœur, elle a ce petit enfant là de 3 ans, c'est ça?
Oui, avec qui elle est fusionnelle, qu'elle allait, il va avoir bientôt 4 ans, elle allait encore. Et ma mère a exigé qu'elle vienne sans le petit.
Oui, mais c'est insupportable. Vous voyez, elle est très tyrannique, mais bon, ça fait partie de sa pathologie. Oui,
voilà.
Elle est dévorante, elle vous...
Elle est comme une enfant, en fait, qui a besoin de toute l'attention.
Oui, c'est ça. Mais comme une enfant, même un enfant plus grand, on peut lui dire non, et puis pas la nuit, il dort. Elle est comme presque un nouveau-né, là. Vous voyez, c'est du H24.
Maintenant, en compétition avec son petit-fils.
Mais oui, c'est pour ça qu'elle ne veut pas les petits-enfants. C'est elle, le bébé, qui dévore tout, qui veut de l'attention.
Alors moi, le mien est grand, il a 19 ans, mais je me suis mise en couple il y a 2 ans.
Avec, oui.
J'ai une compagne, en fait.
Oui.
Et donc, ma mère est jalouse de ma compagne. Donc, c'est-à-dire quand je suis avec elle, elle compte le nombre de coups de fil que j'échange avec elle. Elle compare avec... Oui. Bon, elle fait une comptabilité de ma disponibilité au téléphone. Ouais. Quand ma compagne appelle, quand je suis là-bas, elle trépigne. Comme une enfant de.
Mais comme une enfant de 3-4 ans qui pourrait trépigner quand sa mère est au téléphone, oui.
Voilà. Et il y a peut-être un mois de ça, avant les vacances, ma compagne m'a dit parce que là, ma mère, c'est deux fois par jour au téléphone.
Oh là 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 là.
À ses horaires à elle, parce qu'évidemment, tout est minuté, il faut que je me rende. Disponible, et quand parfois mon travail, parce que c'est des horaires très précis, avec mon travail, je ne fais pas ce que je veux, donc je la préviens avant, je ne serai pas disponible à telle heure, j'ai quand même 3, 4, des fois c'est allé jusqu'à 12 messages téléphoniques, pleurs, qu'elle est désespérée, qu'elle a tellement besoin de m'entendre. La culpabilité.
Mais elle joue sur un ressort puissant, bien sûr, qui est terrible et qui fait mouche à tout coup, c'est la culpabilité, oui. Oui.
Voilà. Et vu que ma sœur a craqué, ma sœur a été un peu virulente, parce que ma sœur ne s'est pas ménagée pendant ses séjours là-bas.
Oui.
Et du coup, elle a craqué, elle a été assez tranchante dans ses propos.
Oui.
Et du coup, ma mère ne veut plus entendre parler de ma sœur.
D'accord.
Et maintenant, elle est. Donc, c'est moi.
Ça repose sur vous. Oh non, mais c'est pas possible, Valérie. Pourquoi je l'appelle Valérie, Cécile ? C'est pas possible. Hein. Enfin, pour vous, c'est vous qui allez tomber malade.
C'est-à-dire que, si vous voulez, chaque coup de fil, ça me m'attire vers un univers qui est très. Comment vous dire ? C'est très glauque. Autant elle peut être. Attention, elle est adorable. C'est une femme qui n'a aucune méchanceté. Elle peut être manipulatrice.
Qu'elle peut, c'est qu'elle est.
Oui, oui.
Pas seulement. Comme les enfants, bien sûr. Vous avez raison. Les enfants peuvent être un peu manipulateurs pour obtenir ce qu'ils veulent de leurs parents, bien sûr. Mais là, ça fait partie de sa pathologie, parce qu'on est dans la pathologie là, dans ce que vous décrivez. Et elle risque de vous entraîner dans sa folie. Non pas que vous deveniez folle à votre tour, mais malade. Et on sent à quel point, malgré votre histoire, vous êtes une fille aimante. Puisque même là, quand vous m'en parlez, vous me dites « elle est adorable ». C'est surtout, elle exerce une tyrannie puissante. Elle est adorable si on s'occupe d'elle et si tout tourne autour d'elle.
Oui, ça va dans son sens.
Bah oui, mais...
Tout à fait. Et avant les vacances, ma compagne m'a dit, ta mère, deux fois par jour au téléphone, c'est deux picouses de comment vous dire, c'est peut-être dur ce que je dis, mais c'est comme des picouses de déprime, en fait.
Ah mais non, je comprends très bien, c'est pas dur, je comprends que vous ressentiez cela. Elle vous entraîne vers le fond, oui, bien sûr.
C'est un univers très particulier.
C'est l'univers, c'est de la pathologie mentale, hein, donc
voilà.
Oui.
Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois que je raccroche le téléphone, je suis pas aussi exsangue que je peux l'être lors des séjours, mais je sens qu'elle me prend une partie de moi quand même, vous voyez.
Oui, il faut que vous soyez solide, mais vous avez la difficulté, parce qu'elle joue sur ce ressort puissant qu'est la culpabilité, et la difficulté, c'est de vous protéger. Parce que c'est un puits sans fond.
C'est un puits sans fond. Alors, avant les vacances, je lui ai dit, pendant les vacances, je partais 15 jours, je lui ai dit que j'allais me couper mon téléphone.
Alors,
pour qu'elle ne le prenne pas personnellement, j'ai dit oui parce que je suis dans le médical, donc j'ai dit j'ai des patients qui peuvent m'appeler, j'ai un petit peu, pour ne pas la vexer. Donc,
vous êtes gentille.
J'aurai le téléphone.
C'est vous qui êtes adorable avec elle. Mais si vous êtes pleine de sollicitude et vous en prenez soin, comme c'est votre mère, mais comme une patiente. Vous percevez bien aussi, d'ailleurs, vous occupez de patients. Enfin, vous êtes pleine de prévenance, voyez, pour pas.
C'est vrai que, qu'elle est touchante parce qu'elle est tellement, je sens tellement sa peine et je pense qu'elle est sincère dans sa peine que ça, c'est comme si c'était moi. C'est de l'empathie quelque part. Mais c'est,
elle oui, me parce que vous êtes voilà. comme ça. Parce que certainement aussi, oui, elle vous, c'est ce que je redoute pour vous, à vrai dire, Cécile. C'est justement, c'est votre empathie à vous. Face à son absence d'empathie à elle. Enfin, c'est-à-dire que comme une personne qui va très mal et qui, c'est même pas de l'empathie, c'est-à-dire quelqu'un qui va très mal et forcément complètement centré sur elle-même.
C'est ça.
Elle pense pas à vous, à votre fatigue, à... Enfin, si elle pensait un instant à vous, d'ailleurs, elle vous demanderait pas de venir sans votre fils. Enfin, vous voyez, c'est... et... Comment vous pourriez vous protéger de ça pour ne pas être aspirée ?
Ben, j'ai l'impression, si vous voulez, j'ai essayé de couper le télé. Donc je lui ai
annoncé pendant
ça,
les vacances, vous m'expliquiez, là, vos 15 elle, jours.
Mais alors, la réaction a été terrible. C'est-à-dire qu'elle, c'était des pleurs, des cris. C'était
ça.
Une scène de. Comme si, enfin, je ne sais pas, comme si j'avais tué quelqu'un. Et j'ai pourtant mis les formes, mais elle l'a très très mal vécu. Elle m'a dit, j'ai compris que tu préférais ta compagne à moi, alors que j'ai besoin d'être l'amour unique de quelqu'un. Elle mélange tout, en fait. Et du coup, elle m'a dit, puisque c'est comme ça, je coupe les ponts. Et elle a raccroché.
Ça serait bien pour vous. Si elle pouvait seulement.
Je peux vous dire que j'étais triste sur le moment parce qu'elle a tellement pleuré au téléphone que une vraie peine qui ça sortait de ses tripes.
Oui, mais une peine, elle pleure sur elle-même beaucoup.
Oui.
Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est beaucoup sur elle-même.
Oui, tout à fait. Oui.
Vous, dans tout ça, le mal, enfin là. Parce que là, qu'elle se sente abandonnée, mais enfin, elle sait vous le dire et vous le reprocher, vous culpabiliser. Et finalement, il n'y a aucune remise en question sur le fait de. Vous avez grandi alors dans un univers où elle ne pouvait pas s'occuper de vous parce qu'elle était trop malade. Et puis, quand vous avez eu 12 ans et votre sœur 10 ans, elle est partie sans savoir, sans se soucier ni comment ni quoi.
Je lui ai quand même dit, je lui dis. Je lui dis, tu sais, moi je fusionne avec ma compagne, Aurore, pardon, j'ai dit son prénom, ma sœur, fusionne avec son petit,
elle lui donne tout ce dont elle a manqué, elle aussi.
Voilà, et je lui ai dit, on s'est construite, mais nous ne nous reproche pas d'être dans des trucs fusionnels.
Non, ça sera un comble.
Voilà.
Parce que vous manqué.
Et elle me dit, justement, c'est pour ça que maintenant je reviens, je veux tout rattraper.
Mais c'est impossible.
Voilà.
Et d'abord, on ne peut pas rattraper le temps qui s'est écoulé, puisque vous n'êtes plus des enfants aujourd'hui. Et puis, elle rattrape à sa façon à elle. C'est-à-dire que c'est elle l'enfant et c'est vous la mère. Mais un enfant un enfant, il grandit, et au fur et à mesure où il grandit, il prend de l'autonomie, et il ne vous accapare pas H24.
Oui, c'est ça.
Elle est restée comme un nouveau-né, c'est les premiers temps de vie d'un bébé, c'est du H24.
Ah oui, et en plus, elle me met dans une espèce d'impuissance, parce que je lui propose, j'essaie de trouver des solutions pour elle, parce que chaque étape de la journée est un problème, est compliqué. Donc à chaque fois j'essaie de trouver des solutions concrètes. J'ai dit si tu veux on te prend un téléphone pour non-voyant, ça existe, pour lui faciliter la vie, pour lui donner un peu d'autonomie. Bon, le téléphone ça n'a pas pu marcher parce qu'elle a trouvé moyen que ça marche pas. Ça va pas s'en servir. Pourtant c'était simple, c'est fait pour les non-voyants.
Mais elle ne veut pas au fond.
Oui.
Et c'est ça, c'est que on voit moi j'ai beaucoup de tendresse pour vous en vous écoutant parce que vous déployez des trésors de patience, de compassion, de tendresse. Et en fait, c'est pour vous que je crains. En vous écoutant, Cécile, je me dis comment faire pour que vous preniez soin de vous, que vous soyez pour vous une bonne mère, celle que vous êtes pour votre mère. Je crains qu'elle vous aspire, elle est dévorante. Elle est dévorante par sa pathologie. Je suis désolée d'être clinique. Là où vous parlez, il y a un langage de tendresse. Je suis volontairement clinique. Elle est très malade, votre mère, et vous le savez. Mais il y a aussi le poids de l'amour, du manque, de la culpabilité, tout ça mélangé, qui est très dur à vivre pour vous. Mais votre mère, c'est de soins dont elle a besoin, psychiatrique. Et peut-être, et ça ne pourra pas durer longtemps comme ça. Et je pense qu'il faudrait qu'elle soit à un moment dans une structure spécialisée. Vous ne pourrez pas faire face. Je suis désolée de vous le dire comme ça, un peu brutalement. Mais je crains que vous vous épuisiez.
Oui. C'est comme ça que je le vis au quotidien. C'est comme ça, même si j'essaye de mettre des limites, de couper mon téléphone, de la prévenir avant, mais j'ai quand même tous les messages, bon, je ne les écoute pas, mais je ne les écoute pas tous parce que des fois j'en ai 12. Tout à l'heure, j'ai pris du temps avec elle au téléphone et pourtant j'avais vraiment autre chose à faire, mais j'ai pris du temps, j'ai dit comme ça, c'est comme lui donner sa dose de... Mais derrière, j'ai eu 3 messages après avoir raccroché, que quand elle raccroche avec moi, qu'elle pleure, qu'elle a besoin de me refaire un bisou par téléphone, parce que c'est trop dur de raccrocher à chaque fois. C'est un puits sans fond. Et plus on lui donne, et plus elle nous...
Mais c'est-à-dire que plus elle vous donne, plus vous lui donnez, plus elle va vous en demander. Elle est dans un fonctionnement extrêmement tyrannique vis-à-vis de vous. Alors, bien sûr que c'est lié à sa pathologie. Mais le problème, c'est... Comment vous le dire, Cécile ? Souffrir n'autorise pas tout. Vous êtes dans le domaine médical. Je ne sais pas dans quel ordre vous me parlez de patients dont vous preniez soin. Mais vos patients, même si vous devez certainement le faire avec... beaucoup de dévouement et vous êtes certainement un soignant hors pair, une soignante hors pair, parce que vous avez développé cette extrême sensibilité, empathie. Mais vos patients, à un moment, quand le travail est terminé, le cadre est posé, ils n'empiètent pas sur votre vie privée.
Oui, exactement.
Le problème, c'est que j'entends que ces qualités que vous avez développé, que vous déployez dans votre pratique professionnelle, vous les exercez aussi auprès de votre mère. Cette infinie patience, cette très grande empathie, cette très grande sensibilité à la douleur de l'autre. Le problème, c'est que ce n'est pas une patiente, c'est votre mère. Et que là, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de vacances, il n'y a plus de soirées, il n'y a plus de nuits, c'est tout le temps.
Oui, c'est vrai.
Et que vous avez beau essayer de lui mettre des limites, j'entends ça, elle n'en a aucune. Elle vous dévore. Je répète cela volontairement, parce qu'elle est dans cette problématique-là de dévoration. Et effectivement, la fusion lui est insupportable quand vous parlez de votre sœur et de son petit garçon, parce que c'est ce qu'elle veut. Mais en fusionnant, on absorbe l'autre. L'autre n'existe plus.
Oui,
et en fait, il n'y a plus qu'elle. Et à un moment, et ce qui est compliqué certainement pour vous, c'est que vous êtes dans cette double position de fille et aussi de la soignante que vous êtes devenue. Et votre histoire est certainement liée aussi à cela. Et ça a mené aussi ces qualités... que vous avez, mais qui ne doivent pas maintenant vous... Votre mère est dans un processus d'autodestruction où elle ne demande pas d'aide aux gens qui auraient pu l'aider depuis des années. Elle refuse l'aide.
Oui.
Et c'est pas de l'aide qu'elle vous demande là. C'est de la prendre totalement en charge comme un bébé avide et qui n'en a jamais assez.
Oui, c'est bien résumé. Oui.
Je reçois beaucoup de messages pour vous. Vous voulez que je vous en lise quelques-uns,
oui,
peut-être
bien sûr,
avant
oui.
qu'on continue. Il y a quelqu'un qui dit « Vous avez non seulement le droit, Cécile, mais le devoir de vous protéger. Vu de l'extérieur, cette situation est très injuste. Pardon de vous le dire, mais vous ne lui devez rien. » C'est Francesca qui parle de non-dette. C'est vrai qu'on a toujours, vis-à-vis de ses parents, cette notion de dette.
Oui,
dette de
vrai.
Vie, dette des soins qu'ils nous ont prodigués. Mais Et Francesca, bon, elle dit bien, hein, après tout, elle parle là de non-dette. Il y a Brigitte qui dit, elle ne vous prend pas en compte. Alors vous, essayez de le faire. N'attendez pas sa bénédiction. Faites ce que vous vous devez à vous-même.
Oui.
Et Brigitte ajoute, elle ne veut que se plaindre, que vous vous occupiez d'elle comme un enfant. Prenez la mesure de son état, mais aussi de vos besoins. Et de vos limites. Pourquoi ce sacrifice aujourd'hui? Parce que c'est vrai que là, ça, ça pourrait tourner effectivement à un sacrifice de votre part.
Oui, elle s'est appuyée là où, voilà, elle sait s'engouffrer dans les
dans vos manques. Brèches. Dans vos manques, parce que ce qui est terrible dans votre histoire où vous avez manqué terriblement de mère et aussi de votre père qui était dans ses problèmes d'alcool, où vous avez dû... heureusement qu'il y avait votre grand-mère, on y revient, mais vous avez certainement grandi trop vite. Précocement, enfin, vous avez dû développer une hypermaturité. Et je comprends, quand je parlais de ce documentaire, vos premiers mots, ça a été de me dire « je vais le regarder ». Alors... Vous avez grandi dans un contexte abandonné qui c'est une source de traumatisme pour un enfant. Et là où il y a quelque chose de difficile à gérer au fond pour vous, c'est que cette mère qui vous a manqué pour tant de raisons. Aujourd'hui, c'est elle qui est en demande, et au fond, en étant elle, vous vous occupez d'elle, c'est que c'est une aussi vous vous rapprochez d'elle. Vous êtes proche d'elle, mais malheureusement, il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange, voyez. Parce que
sur le plan intellectuel, oui, parce que
elle doit contrôler, oui.
Oui, elle est.
Oui. Oui, sur le plan intellectuel, qu'est-ce qui se passe sur le plan intellectuel entre vous deux?
Il peut y avoir des échanges, voilà, où on peut échanger sur des choses, comment dire, sur des sujets.
Vous voyez, vous-même, vous avez du mal à me dire au fond, parce que c'est pas un échange au niveau intellectuel que vous recherchez, Cécile. Vous, quand vous me parlez de votre mère, vous n'êtes pas du tout dans l'intellectuel. C'est de l'affectif dont vous me parlez. Et c'est cet affectif qui risque de se retourner contre vous. Vous avez pu, vous, développer une hyper-affectivité, une hyper-sensibilité, une hyper-empathie. Il ne faudrait pas que ça se retourne contre vous. C'est ce que dit Brigitte, c'est comme une quête impossible de l'amour que vous n'avez pas eu. Et la dame de cœur dit, on se demande qui est la fille, qui est la mère. Elle va vous vampiriser. Il y a l'homme au camélia qui dit, c'est pas de l'aide que réclame cette mère vampire, c'est un sacrifice absolu. Elle réclame ce qu'elle n'a pas su donner à ses filles. Vous voyez, ce qui ressort, c'est dévorer, vampire, c'est de cet ordre-là. Et écoutez-vous, quand vous l'avez au téléphone, deux fois par jour, vous sentez après, vous êtes aspiré par le vide, un vide dépressif.
Parce que
c'est ça en fait, c'est du vide qu'elle vous renvoie, et que vous devez remplir.
Oui.
Et il faut tenir compte, c'est-à-dire en fait, il faut tenir compte de vos besoins à vous. Et j'aime beaucoup ce message de cette auditrice qui dit que vous avez non seulement le droit, mais le devoir de vous protéger. Le devoir vis-à-vis de vous-même, Cécile.
Oui.
Vraiment.
Oui, merci. Hein. Ça fait joli dans vos auditeurs.
Ils sont très fins. Je trouve, il y a une qualité dans leur réflexion. Ils vous écoutent, mais il y a une qualité dans leur réflexion, une finesse d'analyse, oui.
Oui.
Et ça va tout dans le même sens. Hein.
Oui.
Il y a Francesca qui dit « Attendez-vous enfin ». cet amour, au fond, qu'elle ne vous a pas donné. Elle dit, elle ne peut pas vous donner de l'amour. Elle est incapable, enfin, elle ne peut pas en donner.
J'en avais fait le deuil, mais j'ai mis du temps.
C'est très dur. Elle a ravivé quelque chose en faisant appel à vous. Ouais. Elle a réactivé quelque chose. Un deuil de mère, ça fait partie des deuils très difficiles à faire, qu'on peut faire, parce que d'un manque d'amour maternel, penser, réfléchir, éprouver, parce que c'est quelque chose qui s'éprouve avant de s'intellectualiser, mais qu'on peut travailler en thérapie, élaborer, on peut en faire quelque chose. On peut devenir soignant. vous avez réussi, mais maintenant, il faut que vous continuiez, vous, à être cette bonne mère pour vous-même. Avant toute chose, et être une bonne mère pour vous-même, c'est prendre soin de vous et ne pas vous laisser abîmer. On va aller voir du côté de la page Facebook, je crois que ça réagit aussi beaucoup, Paul.
Oui, et tout le monde va dans le même sens, hein. C'est comme pour les SMS, il y a le valet de cœur qui utilise aussi ce verbe vampiriser, qui puise dans votre énergie vitale, donner, c'est superbe, vous le faites très bien, mais à condition de recevoir également, pour vous recharger, préservez-vous, protégez-vous, votre force et votre amour n'est pas sans limite, attention, tout le monde vous met en garde. Il y a Christian qui utilise, lui, le verbe ronger. Que de chaos dans cette existence jalonnée d'étapes douloureuses. Vous avez un courage qui force l'admiration et le respect. Je suis très, très touché. Vous êtes un monument. Mon émotion est sincère. Ouais. Gardez votre force qui vous porte. Recevez ma solidarité et, si vous le souhaitez, mon amitié. Écrit Christian. Il y a Cécile qui dit, Cécile, vous devez vous protéger. Vous vous oubliez énormément. C'est beau ce que vous faites, mais attention, effectivement. Il y a aussi Isabelle qui dit, Cécile, pensez à vous. C'est noble de vouloir vous occuper de votre mère, mais cela va vous coûter trop personnellement. Moi, ma mère ne s'occupait pas de moi, m'abusait émotionnellement et ne m'a jamais soutenue. Alors j'ai coupé les ponts. À 35 ans, ça a été libérateur. Quoi que l'on fasse pour ces « mamans », entre guillemets, écrit Isabelle, elles ne seront jamais les mères que nous souhaitons. Fuyez. Il y a encore Cécile, parce que c'est la réunion des Céciles ce soir, j'ai l'impression.
Vous c'est êtes la toutes solidarité.
Céciles, et toutes des Céciles qui ont eu des mères difficiles. Elle a écrit sur parlons-nous@rtl.fr, sur l'adresse mail. Elle dit « Fuyez cette tyrannie, vous avez le droit à une vie psychologique décente. Ne renversez pas les rôles, vous n'êtes pas la mère de votre mère. Votre mère est trop égoïste, elle va vous détruire. »
Moi, je crains qu'elle vous démolisse, oui. Oui, et je comprends complètement, je rejoins à la fois l'inquiétude des auditeurs et des auditrices, et puis en même temps, quand on vous écoute, on se dit qu'est-ce qu'il vous a fallu comme courage, comme force, comme énergie vitale pour vous sortir de cette enfance déstructurée, pour vous construire, pour devenir soignante. Alors, attention à ne pas démolir, à ne vous laisser démolir.
Oui.
Il y a Brigitte qui, peut-être, ce sera le mot de la fin, elle dit, elle vous renvoie un grand manque d'amour alors que vous donnez tout. Vous avez votre compagne, cherchez ailleurs et en vous d'abord. C'est pas rien d'avoir une compagne, finalement, d'avoir choisi pour objet d'amour une femme. Il y a quelque chose.
Plus âgée que moi aussi.
Il y a quelque chose de très lié aussi certainement à votre histoire. Je crois qu'il faut vraiment que vous soyez un peu, peut-être, et vous avez certainement dû l'être, mais à nouveau un peu accompagné sur le plan psychologique.
Oui, pour passer cette période.
Oui, qui est vraiment très difficile pour vous parce que ça vous ramène à tous vos manques.
Oui. Oui, pour trouver, je pense qu'une solution qui conviendrait à ma mère et à moi n'est pas possible, en fait.
Difficilement.
Oui.
Difficilement. Oui. Il va falloir vous protéger. Mettant peut-être en place quelque chose, si ça peut, pour ne pas être rongé par la culpabilité ou finalement par le biais de structures, de personnes extérieures, professionnelles, qui pourraient prendre soin d'elle. Si elle le refuse, elle le refuse. Mais seul vous allez vous abîmer. Donc je pense qu'il faut vous être un peu accompagné, voyez, psychologiquement, pour reparler de cette relation et ouais. De cette dépendance folle dans laquelle elle vous entraîne.
Oui, je vais le faire. Je vais,
oui, je pense que c'est important.
Je vais rappeler peut-être ma thérapeute,
oui.
Ma psy. Oui.
Oui. Oui, oui, pour, comme vous dites, traverser cette période-là si particulière.
Oui.
Vous voyez
et... Oui, qui est venu remettre pas mal de choses.
Et n'oubliez pas que, je rejoins, vous devez avant tout de prendre soin de vous. Vous oui. le valez bien, vous voyez, vous le méritez. Et vous oui. devez ça à vous-même.
Oui, c'est très beau, oui. Et vraiment, merci aux auditeurs et,
oui.
et à vous aussi pour votre éclairage.
Vous pourrez réécouter peut-être, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de messages. Hein, si vous voulez réécouter oui. quand on a l'antenne, je sais que parfois, pris un peu par l'émotion, on a... vous pouvez réécouter les témoignages qui oui. vous ont laissé notre échange en podcast. Vous voyez, en
oui,
allant
oui,
sur RTL.fr, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de messages très forts pour vous,
oui,
très
oui.
plein de très subtils, très oui. pertinents. Et. Oui. Et qui vont tous dans le même sens. Hein. Vous voyez, on n'a
oui,
pas fait. Il n'y en a pas un qui a dit.
Vous n'avez pas concerté avant.
Ah non, pas du tout. C'est du direct. et vraiment, c'est un cœur d'auditeurs qui vous disent vraiment d'être ouais. pour vous cette bonne mère, de continuer à l'être.
Oui, ouais. D'accord.
Je vous embrasse, Cécile.
Moi aussi, je vous embrasse, Caroline. Merci beaucoup.
Merci
à vous.
Merci. Bonne soirée.
Bonne soirée.